Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 1er juin 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. L'Agence internationale de l'énergie atomique rate l'occasion de résoudre les problèmes en suspens avec l'Iran. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Au sommaire de ce journal, pollution atmosphérique, l'accent mis par le président de la République islamique Ebrahim Raïsi sur la recherche d'une solution définitive. Injuste et déséquilibré, Téhéran dénonce le nouveau rapport de l'IAEA sur son programme nucléaire. Et puis, saisie des navires grecs, la diplomatie iranienne proteste contre la déclaration partiale franco-allemande. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Pollution atmosphérique, le président de la République islamique, Ebrahim Raïsi, s'exprimant lors d'une réunion du cabinet ce mercredi, a souligné « Il est nécessaire de suivre les actions de l'Organisation de protection de l'environnement pour résoudre le problème des polluants et le problème de la poussière jusqu'à ce que le résultat souhaité soit atteint ». Réagissant aux problèmes inquiétants de la dégradation de l'environnement, de la pollution et des tempêtes de poussière, le président Raïsi avait également déclaré lors d'un appel téléphonique à l'adresse du premier ministre irakien le 29 mai, dixit, « Le changement climatique n'est pas spécifique à un pays et traverse les frontières. Aujourd'hui, la lutte contre la poussière est devenue une demande régionale commune et tous les pays de la région sont censés assumer leurs responsabilités à cet égard. » S'adressant d'autre part aux journalistes le 20 mai, le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, avait également déclaré que la source de ces particules de poussière était des pays voisins, ajoutant « l'inquiétude du peuple et l'inquiétude du gouvernement ». À cet égard, le président a mis un ordre spécial au chef de l'Agence de protection de l'environnement pour résoudre le problème. L'Iran est un partenaire fiable pour les pays africains. Le président Raïsi a attiré mardi l'attention sur le continent africain comme l'un des principaux axes de la politique étrangère de l'Iran et a ajouté « L'Iran est un partenaire fiable pour les pays africains ». S'exprimant mardi lors d'un appel téléphonique avec le président du Sénégal et l'actuel président de l'Union africaine, Raïsi l'a félicité ainsi que le peuple du continent africain et le peuple du Sénégal à l'occasion de la journée de l'Afrique. Notre objectif principal est d'être indépendant de l'Est et de l'Ouest, déclaration de chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré « Le slogan « ni Est ni Ouest » qui est répété par la République islamique d'Iran ne signifie pas choisir l'isolement et l'éloignement de l'Est ou de l'Ouest des pays, mais plutôt le but n'est pas de s'y soumettre ». Amir Abdollahian a fait cette déclaration lors d'un symposium sur la politique étrangère équilibrée à l'école Imam Khomeini qui s'est tenu le mardi au sanctuaire du défunt imam. Le ministre des Affaires étrangères a renouvelé à cette occasion ses condoléances au seuil de l'anniversaire du départ de l'imam Khomeini, père fondateur de la République islamique d'Iran, le 4 juin 1989. À son éminence, le guide suprême de la révolution islamique, à la famille du feu imam. Injuste et déséquilibré, Téhéran dénonce le nouveau rapport de l'AIOA sur son programme nucléaire. L'Iran affirme que les derniers rapports du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIOA, sur ses activités nucléaires sont déséquilibrés et injustes. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, les rapports répètent les mêmes erreurs qui existaient dans le briefing du directeur général au Parlement européen. Il a ajouté que même l'agence avait déjà admis ses défauts. Khatibzadeh a exhorté l'AIOA à éviter de politiser ses rapports sous la pression d'Israël et d'autres partis. Il a également parlé des efforts pour relancer l'accord iranien de 2015, ajoutant que tout dépend désormais de la prise de la bonne décision par les États-Unis. Saisie des navires grecs, la diplomatie iranienne proteste contre la déclaration partiale franco-allemande. La diplomatie iranienne, réagissant par la voix de son porte-parole aux déclarations partiales des affaires étrangères françaises et allemandes sur les navires grecs saisis dans le golfe Persique, a déclaré « Nous rejetons fermement ces déclarations unilatérales et injustifiables qui semblent être devenues une habitude chez les émetteurs ». Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a ajouté « Nous conseillons à ces pays, la France et l'Allemagne, qu'au lieu de s'engager dans une fuite en avant et d'apporter un soutien inapproprié aux violations commises par les navires grecs, de soutenir les procédures judiciaires fondées sur le droit international visant à assurer la liberté de navigation et la sécurité maritime ». Malheureusement, ces pays protestent contre les mesures légales prises par l'Iran tout en gardant un mutisme face à la saisie illégale du navire battant pavillon iranien par les autorités grecques sous pression américaine et le déchargement de sa cargaison en faveur des lois extraterritoriales et règlements internes d'un autre pays qu'est les États-Unis, déplore le diplomate iranien. Pour de nombreux analystes, l'Europe soumise aux velléités US a perdu sa souveraineté juridique, mais aussi politique et économique, balayée par les lois extraterritoriales américaines. Dans l'actualité internationale, Oxfam a exhorté toutes les parties au conflit au Yémen à prolonger l'armistice actuel pour aider à éviter une famine catastrophique et empêcher la crise humanitaire de s'aggraver dans le pays. L'organisation caritative internationale affirme que la trêve a entraîné une baisse du nombre de victimes civiles, les frappes aériennes et les combats au sol ayant considérablement diminué. Guerre en Ukraine, le ministre russe des Affaires étrangères accuse l'Occident et l'Ukraine de l'insécurité alimentaire mondiale croissante, affirmant qu'il leur appartient de résoudre la crise. Sergueï Lavrov a dit que l'Ukraine doit déminer ses eaux territoriales pour permettre le passage en toute sécurité des navires commerciaux. Lundi, le président Poutine a également imputé les pénuries alimentaires mondiales aux politiques occidentales à courte vue. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. L'Agence internationale de l'énergie atomique rate l'occasion de résoudre les problèmes en suspens avec l'Iran. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a raté la nouvelle opportunité que l'Iran a offerte à l'Agence de résoudre les problèmes en suspens influencés par les parties qui rejettent les relations entre l'Iran et l'Agence. Ce lundi, Grossi a soumis deux rapports sur les activités nucléaires de l'Iran au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont un avis préétabli de l'entité sioniste Israël et une conclusion unilatérale sur les activités iraniennes. Contrairement aux obligations de l'Agence internationale, des informations secrètes ont été rapidement divulguées aux médias occidentaux pour attiser l'atmosphère contre l'Iran avant la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale. Ceci malgré les avertissements iraniens selon lesquels les documents confidentiels doivent être conservés au sein de la IOA. C'est un sujet sur lequel l'Iran a mis en garde à plusieurs reprises et a souligné que l'Agence internationale devait reconsidérer son mécanisme de distribution. Mais quelles que soient ses marges, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a perdu de nombreuses occasions de résoudre des problèmes en suspens et fait des allégations sur ce qu'il appelle des activités nucléaires sur des sites non déclarés en Iran. L'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont convenu en mars de l'année dernière, après une visite de Rafael Grossi à Téhéran, de résoudre les problèmes présumés dans le cadre d'une feuille de route spécifique dans un délai maximum de 3 mois. À la suite des consultations approfondies, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique et l'AIOA ont publié une déclaration conjointe sur l'accélération et le renforcement de la coopération bilatérale et du dialogue entre elles pour résoudre les problèmes. Selon un communiqué publié le 20 mars 2022, l'OIOA fournira des explications écrites sur les questions soulevées par l'AIOA sur les questions relatives aux 3 sites non abordés par l'Iran, ainsi que les pièces justificatives que l'agence fournira. En plus, Grossi a raté l'occasion de résoudre les problèmes en suspens avec l'Iran en répétant les allégations de l'existence de sites non déclarés pour l'activité nucléaire à l'intérieur de l'Iran, avancées par les sionistes il y a 3 ans et répétées par les médias occidentaux et négociateurs occidentaux. Le rapport divulgué, préparé par Grossi, affirme que l'Iran n'a pas répondu aux questions sur la découverte des matières nucléaires dans des endroits non divulgués, ajoutant que la résolution des problèmes liés à ces 3 endroits demeure. Mohammad Reza Rahebi, le chef de la mission permanente de la République islamique d'Iran auprès des organisations internationales à Vienne, a annoncé le premier rapport sur la mise en œuvre de l'accord sur les sauvegardes en République islamique d'Iran porte sur le processus de négociation des questions de sauvegarde restantes entre la République islamique et la IOA, sur la base de la feuille de route convenue le 5 mars 2022 dans une déclaration conjointe entre le directeur général de l'AIOA et le chef de l'Organisation de l'énergie atomique de l'Iran. La République islamique d'Iran, bien qu'elle ait cru dès le début que les allégations contre notre pays étaient fondées sur des fausses informations fournies à l'AIOA par le régime sioniste et des pays hostiles, pour montrer sa bonne foi et à réfuter les allégations et les accusations non fondées, en se déclarant prêt à faire une interaction motivée et technique avec l'AIOA, a tenté de parvenir à un accord avec l'agence pour ainsi entamer un processus de négociation dans le but du règlement définitif de ses réclamations, en participant à 3 réunions techniques détaillées distinctes avec les responsables concernés de l'AIOA au cours des 2 derniers mois et fournir les documentations techniques nécessaires à l'agence concernant les allégations formulées, a-t-il ajouté. Injuste et déséquilibré, Téhéran dénonce le nouveau rapport de l'AIOA sur son programme nucléaire. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, les rapports répètent les mêmes erreurs qui existaient dans le briefing du directeur général au Parlement européen. Il a ajouté que même l'agence avait déjà admis ses défauts. Khatibzadeh a exhorté la IOA à éviter de politiser ses rapports sous la pression d'Israël et d'autres parties. Le diplomate a également parlé des efforts pour relancer l'accord iranien de 2015, ajoutant que tout dépend désormais de la prise de la bonne décision par les États-Unis. Khatibzadeh a déclaré que le rapport du chien de garde nucléaire était le même rapport que le directeur général de l'AIOA, Raphaël Grossi, a présenté à la hâte au Parlement européen et a été conclu avant même la réunion Iran-AIOA à Téhéran. Le rapport n'est ni juste ni équilibré et la pression du régime sioniste a fait dévier les rapports de l'AIOA du technique au politique, a-t-il souligné, ajoutant que la République islamique d'Iran fait avancer son programme nucléaire sur la voie pacifique et civile.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Dans la nuit de 25 à 26 mai, plusieurs unités militaires turques ont franchi la frontière de la Syrie. L'artillerie de l'armée turque a pilonné en effet les positions dans différentes localités en banlieue d'Alep, sans pour autant aller attaquer en effet l'armée syrienne. Cette offensive intervient 48 heures après un discours du président turc Recep Tayyip Erdogan qui avait menacé en effet de lancer une offensive d'envergure dans le nord de la Syrie pour créer prétendument une zone de sécurité de 30 kilomètres le long de la frontière, mais aussi pour combattre les miliciens du PKK, parti du travailleur, des travailleurs en effet du Kurdistan irakien. L'armée turque mène depuis la mi-avril des opérations dans le nord de l'Irak visant les positions du PKK et le chef d'État turc a en effet annoncé envisager une opération similaire dans le nord de la Syrie. Cette offensive intervient au moment où la Russie fait profil bas en Syrie en raison de la crise ukrainienne et au moment où, en effet, la Suède et la Finlande, en effet, ont remis leur demande d'adhésion à l'OTAN. Cette offensive intervient également après la visite du chef de la diplomatie turque en Israël. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser ces derniers développements concernant la Syrie et l'offensive turque dans le nord de ce pays. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Quelques heures après le début de l'offensive turque contre le nord de la Syrie, où la Turquie a pour mission de créer de concert avec Israël une zone de sécurité de 30 km de long avant de s'emparer d'Alep et de s'offrir de quoi cibler la flotte méditerranéenne de la Russie, l'aviation russe a lancé un premier avertissement. Des avions de combat de la force aérospatiale russe ont effectué une série de frappes aériennes simulées au-dessus des zones occupées par la Turquie dans le nord-est de la Syrie. Les frappes aériennes simulées, qui ont commencé mercredi 25 mai tard dans la nuit et qui se sont poursuivies jusque lendemain matin, visaient la périphérie de la ville de Tel Abyad au nord de Raqqa et la ville de Ras Al Ain au nord de Hasakeh. Des sources locales ont signalé plusieurs fortes explosions dans le ciel. Les frappes aériennes russes étaient probablement destinées à envoyer un message à l'armée turque et à ses mandataires qui se prépareraient à lancer de nouvelles opérations à grande échelle dans le nord et le nord-est de la Syrie. Lors d'une conférence de presse suivant une réunion du cabinet tenu le 23 mai, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait fait part d'une opération militaire imminente en Syrie destinée à relier deux zones déjà sous le contrôle des Turcs. Une nouvelle opération turque dans le nord et le nord-est de la Syrie violerait plusieurs accords de désescalade signés avec la Russie et risque de déclencher une confrontation directe entre l'armée syrienne et les forces d'occupation turques. La Russie ne s'est pas encore officiellement exprimée à propos d'une intervention dans le conflit entre la Turquie et la Syrie. Cependant, étant donné que la Syrie est l'un des alliés les plus importants de Moscou dans la région, la Russie s'opposera catégoriquement à toute nouvelle opération turque. Alors que le ciel syrien se barricade quasi hermétiquement, reste à savoir si Erdogan est la partie qui pourrait l'aider à inverser cette tendance. Quant à la réaction russe contre cette convoitise anti-Alep, anti-Tartus, elle pourrait s'illustrer par un S-300 en colère qui chasserait les FCS turcs, voire sionistes. Après tout, aussi bien la Turquie qu'Israël ont déjà abattu des avions russes dans le ciel de la Syrie.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique, et depuis Paris avec Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Madame Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation. Et bonjour à Monsieur Develet, votre invité.
Madame Armidani, une nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie dans la nuit de mercredi à jeudi. L'artillerie turque qui a pilonné plusieurs localités à proximité, en effet, d'Alep. Comment s'explique-t-elle cette nouvelle convoitise turque? Est-ce que là, il s'agit d'une nouvelle velléité expansionniste du président Erdogan en pleine crise ukrainienne, au moment où les tensions, comme vous le savez, montent au sein de l'OTAN à cause de l'adhésion de la Finlande et de la Suède, et la Turquie a menacé de faire barrage justement à cette adhésion, et d'autant plus que cette nouvelle opération, cette nouvelle offensive en effet, intervient alors quelques jours après la visite du chef de la diplomatie turque en Israël.
Alors, en fait, les velléités d'expansion de Erdogan ne sont pas nouvelles. Il a toujours été, je rappelle quand même que la Turquie a été un petit peu réellement la tête de pont de l'agression contre la Syrie depuis 2011, que c'est par la Turquie que tous les terroristes ont filtré dans par la frontière turque, en fait, sont arrivés en Syrie, que la Turquie a dirigé et dirige toujours des hordes terroristes dans le nord de la Syrie, tout ça sous prétexte de lutter contre les Kurdes en nord de la Syrie. Je voudrais rappeler quand même que la Turquie est une force importante de l'OTAN, donc obéit aux ordres américains, puisque c'est les États-Unis qui dirigent l'OTAN, d'une part. D'autre part, de la même manière d'ailleurs qu'Israël et vice-versa. D'un autre côté, l'offensive turque sur la Syrie, sur les frontières syriennes, n'est pas nouvelle. Donc, elle date bien depuis 2011, que cette histoire de zone de sécurité à l'intérieur de la Syrie a été brandie au début de l'agression contre la Syrie. Elle a été contenue et limitée, effectivement, par les accords d'apaisement qui ont été menés par la Russie, en fait, mais il est clair qu'à chaque fois que la Russie, à chaque fois que la Turquie ou les terroristes perdaient du terrain, la Turquie venait à leur rescousse, d'une part. D'autre part, ils prétendent aussi être contre les forces dites kurdes de Qassab et opposé à la création d'un État kurde dans le nord de la Syrie et donc opposé à la séparation ou au dépeçage de la Syrie. Ils ont quand même signé tout un tas de traités et notamment ils ont signé Astana qu'ils n'ont jamais, et les accords d'Astana qu'ils n'ont jamais appliqués. Ils ont signé des accords dans lesquels ils s'engageaient à sortir, à dégager les autoroutes M4, M5 et puis pousser les terroristes à l'extérieur à 6 km de part et d'autre de ces autoroutes, chose qui n'a rien été et il n'en a rien été. Je rappelle qu'en 2018-2019, l'armée arabe syrienne a gagné aussi, elle s'est engagée dans des combats très importants aussi avec les terroristes à Jisr al-Shour à Riha dans le nord d'Idlib. Et là, c'est Erdogan est allé quémander un entretien à Poutine et au cours duquel le 5 mars, justement, cet accord a eu lieu, justement, où il devait s'engager, et il avait délai jusqu'en juin de 2019 pour se retirer, mais il n'a jamais appliqué tous ces accords qu'il a signés, jamais honoré les traités qu'il a signés au sein des accords d'Astana et des zones d'apaisement. Donc, en fait, il est clair que Erdogan traite aussi, aussi avec les Israéliens. L'objectif, c'est aussi un peu encercler la Syrie. Et ça, c'est très grave. En fait, là, aujourd'hui, il se sent encore plus fort du fait que la Russie est occupé peut-être avec l'Ukraine, mais à mon avis, il se trompe parce que de toute façon, la Russie honore aussi tous ses engagements et à propos de la Syrie, ça va se retourner contre la Turquie en fait, qui joue aussi un mauvais jeu ou un sale jeu vis-à-vis de la Russie. Aussi bien vis-à-vis, d'un côté vis-à-vis de l'Ukraine, puisqu'ils fournissent des avions et des munitions aussi au régime de Zelensky. Et puis, d'un autre côté, ils jouent aussi de l'autre côté, ils essayent de jouer quand même pour la Russie, en s'opposant à l'accès de la Finlande et de la Suède à l'OTAN.
Merci, Madame Edeni. Je vous remercie infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Damas, Maître Arnaud Develle, juriste international. Maître Develle, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous et bonjour à Madame Edeni.
Alors, concernant toujours cette nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie, Madame Edeni l'a rappelé. Elle viole bien sûr plusieurs accords de désescalade signés avec la Russie. Dans quel contexte replacez-vous, Maître Develle, ce nouveau jeu du président Erdogan? Est-ce que là, il y a une coordination, une connivence entre les États-Unis et Israël concernant cette nouvelle offensive turque?
Écoutez, je pense que cette coordination n'a jamais vraiment cessé. Erdogan avait, au travers de l'opération Rameau d'Olivier, tenté de procéder, et il a réussi en grande partie à une forme de nettoyage ethnique dans les zones envahies par l'armée turque. L'idée étant de préparer le terrain, si je puis dire, pour ce que le président turc a annoncé, sous couvert, bien sûr, c'est toujours un peu le même mantra, se protéger des actions terroristes du PKK. ce qui laisse un peu penser que quelque part, il prend ses leçons à Washington. Vous l'avez souligné, en même temps, la coordination avec les Israéliens est évidente. Mais j'allais dire aussi avec le Qatar, puisque nous avons eu des rapports récents, de rencontres haut niveau entre les cadres de la soi-disant armée syrienne libre. Et on sait maintenant que l'objectif en ce qui concerne cette opération, qui pour l'instant est au stade de préparer l'opinion publique turque pour la réinjection de près d'un million de réfugiés, mais plutôt pro-Ankara, dans la région en question, fusionner les commandements de HTS, donc Al-Nosra, Al-Nosra en Syrie, Al-Qaïda en Syrie, et donc la SL. On peut penser que si cette opération venait à prospérer, entre guillemets, cela poserait bien sûr un problème stratégique important pour Damas, parce que cette zone pourrait alors être une rampe de lancement pour la résomption d'opérations visant à opérer la politique du changement de régime, mais aussi pour la Russie, bien sûr, puisque étant à quelques encablures des bases russes, n'oubliez pas que l'objectif de l'OTAN, c'est aussi d'éjecter et d'expulser la Russie de la région. Donc tout ça est cousu de fil blanc. On peut ajouter que quelque part, en s'emparant aussi des... si je puis dire, des ressources de portes sur l'eau. Erdogan viole aussi le droit humanitaire, les conventions de Genève, les conventions de La Haye, et que dans ce contexte-là, il s'est affranchi maintenant, bien sûr, non seulement de toutes ses obligations internationales, plus précisément, comme l'a souligné Dr Midani, des accords d'Astana qu'il avait signés il y a à peine 2 ans et demi de cela, mais aussi qu'il joue un jeu, effectivement, parce que tout est connecté entre la Syrie et l'Ukraine. Je renverrai nos auditeurs à la doctrine énoncée par la Fondation RAND, hein, qui consiste aussi à créer tous ces théâtres d'opérations pour épuiser la Russie, et que dans ce contexte-là, avec effectivement l'annonce de la volonté d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède, on retrouve encore le bon opératoire d'Erdogan, qui est de celui de, initialement, laisser entendre qu'il s'opposera à ces adhésions, mais c'est pour mieux en fait annoncer la couleur qu'il veut négocier et il veut quelque chose en retour. Alors, on a entendu dire qu'il y avait eu des rumeurs qui circulaient selon lesquelles il avait approché le président russe en lui disant « tu me donnes la carte, le chemin libre, la voie libre à Idlib et j'appose mon veto ». On peut penser que c'est de la désinformation puisque l'État russe est très légaliste et en aucun cas ne se laisserait... tenter quant à violer ses propres engagements vis-à-vis de Damas. Merci. Mais vous voyez, c'est un peu le mode opératoire d'Ankara et dans ce contexte-là, on est en pleine doctrine Erdogan, si je puis dire.
Merci pour ces éclairages. Maître Develay, restez avec nous, s'il vous plaît. Madame Idani, quelles seront les répercussions sécuritaires et stratégiques de la nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie? Alors, vous avez rappelé à tout à l'heure, peut-être en raison de la crise ukrainienne, alors la Russie alors serait en quelque sorte contrainte de retirer ses forces d'une partie au moins de ses forces de la Syrie. Donc, mais cela a permis, bien sûr, selon de nombreux observateurs à la République islamique d'Iran, de renforcer la DCA donc de l'armée syrienne. Est-ce que là, cela ne risque pas de déclencher une confrontation directe entre l'armée turque et l'armée syrienne?
Écoutez, je crois que depuis un certain temps, effectivement, il y a des provocations turque, en fait, vis-à-vis de la Syrie, les bombardements incessants des villages de la frontière syrienne, aussi bien du côté de Ras el Ain que du côté de Hasaké, et aussi du côté d'Alep, hein, ils ont été vraiment incessants. Cette opération, je crois, qui vise effectivement à élargir d'ailleurs même l'influence, les lieux d'influence des Turcs à l'intérieur de la Syrie, ajouté au fait qu'il y ait eu des constructions de maisons qui ont été distribuées aussi, soi-disant, aux réfugiés syriens à l'intérieur de la Syrie, et que c'est un véritable changement ethnique, je dirais, des territoires aux frontières de la Syrie, aux frontières syriens, aux frontières de la Turquie. Donc, en fait, effectivement, je crois que de toute façon, on va vers une confrontation totale avec l'armée turque, qui, malheureusement, jusqu'à maintenant, a été plus ou moins stoppée par nos amis russes pour des considérations, en fait, d'apaisement, justement, et puis de résolution, je dirais, un peu pacifique, évitant ces conflits et évitant vraiment des grosses destructions, comme c'est effectivement dans la doctrine russe et d'ailleurs même la doctrine syrienne, qui est la patience stratégique et qui a donné ses résultats par rapport à la population. Or, aujourd'hui, effectivement, les Turcs, Erdogan est impatient parce que la progression d'une part de la résistance populaire en Syrie a augmenté de manière assez importante. De l'autre côté, les réconciliations et puis l'effet de cette loi d'amnistie qui a été faite par le président Assad fait que nombreux combattants, en fait, entre guillemets, nombreuses personnes qui étaient obligées de se battre aux côtés de Assad et aux côtés des terroristes rejoignent l'armée arabe syrienne maintenant et reviennent dans le giron de la patrie, chose qui est une véritable victoire, je dirais, sociale, qui vide le mouvement Assad de sa substance. Et de ce fait, d'ailleurs, je rappelle quand même qu'au-delà même des attaques militaires, il y a le vol et le pillage des ressources syriennes, de blé, de coton, du pétrole syrien et du gaz syrien qui aujourd'hui sont pillés ouvertement par les Américains, mais qui avant étaient soi-disant pillés par les terroristes, mais qui transitaient vers la Turquie et qui profitaient.
Merci, Madame Denis.
Aux entreprises du fils de Erdogan, oui. De Bilal Erdogan. Donc, tout ceci est dur depuis 10 ans.
Merci, Madame Denis.
Là, effectivement, on va finir par peut-être une confrontation, mais je crois que la Syrie évite cette confrontation aussi. Pour qu'il n'y ait pas beaucoup de victimes civiles. Ce sont des régions, quand même, il faut savoir, qui sont pas seulement des régions riches et importantes, mais aussi des régions où il y a beaucoup qui sont peuplées
Merci, Madame Denis.
Ils sont bien, bien peuplés.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Maître Develay. Maître Develay, il nous reste 2-3 minutes. Il semblerait qu'il existe un projet, en effet, commun entre Israël, entre la Turquie d'une part et d'autre part le tandem américano-israélien, à savoir contrer, en effet, la DCA intégrée et renforcée de la Syrie, épaulée, bien entendu, par l'Iran. Alors, qu'est-ce qui va sortir de cette confrontation, de ces combats, de ces affrontements, au moment où, comme vous le savez, l'armée israélienne a également multiplié ces derniers temps ses frappes aériennes contre la Syrie?
Bah, écoutez, le temps est difficile à prévoir. Ce que l'on sait d'une manière certaine, c'est que l'incise, si je puis dire, de cet renouvellement, de cette réactivation du plan qui vise à effectuer un changement de régime, passera par la Turquie. Et en cela, je rejoins tout à fait Mme Bidani quand elle dit que Erdogan s'impatiente. Pourquoi ? Parce qu'en interne, il est confronté à une situation économique catastrophique, ce qui explique tous ses voyages dans la région récemment où il a tenté de se rapprocher avec les Saoudiens, mais aussi avec les Israéliens, vous l'avez souligné. Et dans ce contexte-là, cette politique, si je puis dire, ambivalente qu'il cultivait depuis environ 4-5 ans, commence de moins en moins à lutter, si je puis dire. Il est obligé de revenir dans le giron. Et je pense que, eu égard à effectivement cette situation à laquelle il est confronté, n'oublions pas que les élections présidentielles auront lieu l'année prochaine en Turquie, que c'est supposé marquer le centenaire de la révolution turque, donc c'est quelque chose qui a à cœur à Erdogan, et je pense que dans ce contexte-là, il a à cœur de, si je puis dire, évacuer une partie de la pression interne dans ce projet de colonisation au nord de la Syrie, mais au-delà de ça, maintenant, c'est quelque chose qui nécessiterait un financement pérenne de la zone en question. Et cela, la Turquie n'a pas les moyens de le faire. Donc, on peut penser qu'une fois le processus de colonisation, la rampe de lancement, puisqu'il s'agit d'une rampe de lancement, sera activée avec l'idée de s'emparer de davantage du territoire syrien.
Merci infiniment, Maître Arnaud Develet, juriste international depuis Davos. Je remercie également Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales, qui était en ligne avec nous depuis Paris. Merci infiniment de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Croissance nulle au premier trimestre 2022. Accident, panne ou tendance inquiétante. La croissance au premier trimestre de cette année aura été nulle en France, si l'on en croit les chiffres de l'INSEE. Ce résultat apparaît comme une douche froide après le rebond économique de 2021. Comment l'expliquer ? S'agit-il d'un simple accident ? L'arrêt de la croissance a surpris les responsables du ministère français de l'économie et des finances. Il est manifestement dû à la chute de la consommation qui diminue d'environ moins 0,5%, mais aussi à un investissement qui reste très faible. La reconstitution des stocks, un phénomène qui est sensible depuis la fin de l'année 2021, est le seul facteur positif à noter. Cela permet au résultat du PIB de ne pas être négatif au premier trimestre. Ajoutons que le ralentissement de la production est significatif dans le secteur des services et provient notamment de la production en services marchands, plus 0,4% après plus 1,8%, en particulier dans l'hôtellerie et la restauration, moins 4,0% après plus 1,2% au trimestre précédent. En revanche, la production des biens a été un peu plus dynamique ce trimestre, et en particulier celle des biens manufacturés alors qu'elle avait été stagnée lors des deux derniers trimestres de 2021. Cependant, les résultats de mars sont mauvais. La production industrielle a chuté au mois de mars de 0,5% par rapport au mois de février. La production manufacturière, elle, est en chute de 0,3% sur le mois. Que s'est-il donc passé ? La baisse en volume de la consommation est sensible pour les ménages, tandis que la consommation des administrations publiques, qui avait contribué à porter la croissance en 2021, est-elle à l'arrêt ? Une possible explication réside dans la montée des incertitudes. La guerre en Ukraine a pu naturellement peser, tout comme à un moindre niveau, le rebond épidémique de la COVID-19 que la France a connu en début d'année. C'est l'hypothèse d'un accident passager. La guerre a clairement des conséquences importantes sur l'appareil productif français. Les secteurs qui sont les plus affectés par les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement engendrées par la guerre sont les secteurs de la fabrication de machines et d'équipements et d'automobiles. Ils voient leur production chuter de façon importante, respectivement de 3,9% et de 7,3% sur un mois. En conséquence, la production automobile se trouve désormais à 34,2% en dessous de son niveau d'avant-pandémie. Les ménages, quant à eux, inquiets de la situation internationale, préféraient épargner que consommer. Cependant, la baisse du taux d'épargne, sensible sur une partie de 2021 et qui pourrait avoir continué au premier trimestre 2022, ne plaide pas pour cette hypothèse ou incite à tout le moins à la minorer. La faute à l'inflation. D'autres facteurs sont aussi à l'œuvre. L'inflation, en particulier, qui accélère depuis l'automne 2021. L'inflation implique une réallocation des dépenses, en particulier pour les catégories les plus modestes qui sont mécaniquement les plus touchées. Le surcroît de dépenses pour l'énergie, que ce soit pour le transport ou pour le chauffage, réduit naturellement de reste à vivre, ce qui se traduit par une baisse de la demande pour les produits manufacturiers. Les revenus n'étant plus indexés comme ils étaient dans les années 1960 et 1970, l'inflation entraîne donc naturellement cette baisse de la demande. C'est l'hypothèse de la panne transitoire que le gouvernement a privilégiée en début d'année. La thèse du ministre de l'Économie et des Finances était que l'inflation ne durerait pas et que le marché du travail, se tendant avec une baisse du chômage, des hausses de salaire apparaît très rapidement. Néanmoins, on voit bien que l'inflation est là pour durer, au moins jusqu'en 2024. Cette inflation est elle-même due à des causes différentes qui vont d'un redémarrage de la demande plus rapide que celui de l'offre, d'une hausse structurelle des matières premières, d'une hausse des coûts de transport, en particulier dans le transport maritime, et de phénomènes de pénurie liés aux effets de la crise sanitaire sur les chaînes internationales de production et enfin, dans le cas de la France, une baisse de la productivité du travail. L'impact de ces différentes causes sur les prix à la production et donc implicitement à la consommation est évident. L'hypothèse d'une inflation de courte durée est par ailleurs mise à mal par les effets de la guerre en Ukraine, que ce soit les sanctions ou les contre-sanctions, mais aussi par des effets de spéculation sur un certain nombre de biens, qu'il s'agisse des biens alimentaires ou des semi-conducteurs. Ainsi, le taux d'inflation est passé en France de 3% à la fin de l'année 2021 à 4,5% au mois d'avril 2022, et pourrait atteindre de 5,5% à 7% à la fin de cette année, selon diverses prévisions. Les mesures prises par le gouvernement, primes ponctuelles et boucliers sur les questions de l'énergie, si elles étaient cohérentes avec l'hypothèse initiale d'une inflation de courte durée, ne le sont plus face à une inflation qui pourrait durer encore 2 ans, voire plus. Dans ces conditions, la panne de croissance menace de durer. Or, on peut aussi lire dans les statistiques de l'INSEE des éléments qui vont au-delà de l'accident ou de la panne et qui décrivent la mise en place d'une tendance inquiétante. On a dit que le taux d'épargne baissait. Le taux de marge, autrement dit la capacité des entreprises à dégager des bénéfices, et le taux d'investissement aussi. La faiblesse de l'investissement depuis le second semestre 2021 est particulièrement préoccupante et vient se combiner avec une baisse du taux d'autofinancement des entreprises françaises. Ce dernier est passé de 97,8% au deuxième trimestre 2021 à 89,3% au quatrième trimestre de 2021. On ne connaît pas encore les chiffres pour le premier trimestre de 2022. Mais on peut penser qu'ils seront eux aussi mauvais. Or, si le taux d'autofinancement baisse, cela implique que les entreprises sont plus dépendantes des banques pour l'investissement, ce qui, en période de rapide remontée des taux d'intérêt, n'est clairement pas une bonne nouvelle. On voit donc se dessiner une autre histoire, venant démentir les preuves d'autosatisfaction que se décernaient les autorités depuis cet automne. La forte reprise que la France a connue en 2021 semble bien avoir été une simple compensation de l'effondrement de la consommation en 2020, au plus fort de la crise sanitaire. Dans ces conditions, la supposée baisse du chômage va révéler ses effets de trompe-l'œil. En effet, si le gouvernement a beaucoup communiqué sur ce point, il s'est basé essentiellement sur la baisse des chiffres de la catégorie A de Pôle emploi. Cependant, les personnes sorties de cette catégorie sont essentiellement des personnes en stage. Pour que cela aboutisse à un retour effectif à l'emploi et non à une forme de camouflage du chômage, il faudrait que la production et l'investissement s'accroissent. Or, non seulement la production désormais stagne, mais l'investissement reste inférieur à ce qu'il devrait être. Normalement, la formation brute de capital fixe, FPCF, aurait dû atteindre 144 milliards au quatrième trimestre de 2021. Mais ce n'est pas le cas. La stagnation de la croissance enregistrée par la France au premier trimestre va sans doute se prolonger au deuxième et au troisième. Si des éléments conjoncturels ont naturellement pesé, si l'inflation a joué un mauvais tour prévisible aux responsables de Bercy, cette stagnation reflète bien plus une atonie générale et une politique économique inadaptée.